je voudrais plutôt converser avec vous. Et j'ai déjà là quelques questions que vous avez posées à l'intermédiaire de votre professeur. Ça va peut-être nous permettre d'engager cette discussion, cette conversation le plus simplement possible. Pour ce, je pense que vous êtes tous à peu près au courant de du pourquoi de cette causerie. Enfin, en deux mots, je suis un écrivain, j'ai 63 ans, j'ai passé ma vie à écrire, c'est-à-dire une bonne cinquantaine d'années. Et donc, nous allons essentiellement parler de l'écriture. Certains d'entre vous, en tout cas, ont lu quelques nouvelles de moi, quelques récits. Nous verrons que j'ai en fait une œuvre assez importante. Importante, je n'en sais rien. Faisons bien attention au choix des mots. Une œuvre abondante, ça voulait dire. C'est pas à moi de décider si elle est importante ou non. Parmi les questions que vous avez posées, qui sont déjà assez diverses, j'espère que vous m'en poserez d'autres, je note qu'une tendance générale s'en sort, qui est au fond le problème essentiel dans l'écriture, de l'authenticité, de la sincérité, de la vérité. Sous différentes formes, après la lecture des nouvelles que vous avez entre les mains, vous vous demandez, est-ce que l'auteur est sincère? Est-ce que l'auteur se confond avec le narrateur? Est-ce que il y a une réalité derrière certaines expériences, certains dédoublements, par exemple? Ou est-ce simplement des artifices littéraires? Je pense que c'est une question qu'on se pose, ou qu'on devrait se poser, devant toute œuvre d'art. Ce qui est curieux, c'est que, je le dirai tout de suite, d'ailleurs pour bien marquer la différence entre les différents arts, ce qui est curieux, c'est qu'on ne se posera jamais la question devant une peinture ou une musique. Hein? Je n'ai jamais entendu se demander devant un Van Gogh ou un Picasso, est-ce authentique, est-ce sincère? Bon, on se dira peut-être, est-ce vrai? Est-ce que ça correspond à la réalité ou est-ce que ça ne correspond pas à la réalité? Est-ce que c'est abstrait ou concret? Et on ne se posera pas le problème de la sincérité. De la même manière, devant une musique, on va dire, devant une symphonie, on va dire qu'elle est plus ou moins belle, qu'elle est plus ou moins envoûtante, emportante, romantique, classique. Mais on ne va pas se demander si elle est vraie ou pas vraie, si elle est sincère ou pas sincère de la part de l'auteur. C'est la question qui vient presque aux lèvres spontanément quand il s'agit d'une œuvre écrite. C'est tout de même curieux. C'est curieux parce que cela montre, cela témoigne que l'on ne considère pas le mot comme un outil, comme on considère la couleur ou le son. On a en quelque sorte un certain éloignement devant le son ou devant la couleur, et finalement une sorte de respect, je dirais, une sorte de respect de l'artiste, dès l'instant qu'il se sert bien de son outil. On ne va pas s'informer sur ses qualités ou ses défauts ou ses vices personnels. On ne va pas s'interroger sur son degré, encore une fois, d'authenticité. Alors que devant un écrivain, oui. Cela veut dire qu'on n'arrive pas à considérer le mot comme on considère le son ou la couleur. Or, c'est très étrange. C'est très étrange quand vous analysez cet outillage. L'un ou l'autre outillage, d'ailleurs. Vous êtes obligé de considérer que c'est la même chose. C'est la même chose. Si les couleurs sont constituées de trois ou quatre structures essentielles, notamment les trois couleurs de base, hein, le rouge, le bleu et le jaune, si les sons sont constitués de cinq harmonies de base, sept harmonies de base, qu'on peut porter à 12 peut-être dans une certaine musique, mais enfin qui sont fondamentalement 7. Les mots reposent sur l'alphabet, qui est un petit peu plus, qui contient un peu plus de signes, mais pas beaucoup plus. Alors, on est tout de même amené à se demander pourquoi cette différence. Je me le suis demandé longtemps. Je pense que tout écrivain, pendant des années, se pose ce genre de questions et il n'est pas satisfait aussi longtemps qu'il n'y a pas répondu. À l'évidence, la différence vient de ce que le sens. Le sens est plus apparent dans le mot que dans la couleur ou le son. C'est-à-dire qu'on cherche au mot des sens qui seraient en quelque sorte indépendants de la forme. D'où un mépris de la forme. La forme elle-même, les voyelles, les consonnes, ça n'a pas d'importance. Ce qui serait d'important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on exprime par eux. Bon. Alors pourquoi ne dit-on pas la même chose dans une peinture ou une musique? Là aussi, on pourrait dire que l'important, c'est pas la couleur ou le son, mais c'est le sens qu'on découvre. Dans une certaine mesure, c'est vrai, je vous disais tout à l'heure, on ne se demande pas l'autre dans quelle mesure un peintre est authentique ou non. Par contre, on va se demander dans quelle mesure sa peinture est vraie ou n'est pas vraie. Elle est réelle ou pas réelle. La musique, on ne va pas se demander si elle est réelle ou pas réelle, mais on va se demander si elle témoigne d'une approche harmonieuse, harmonique du monde ou non. On parlera de musique triste ou gaie ou dramatique. C'est une sorte de sens aussi qui est affecté à la musique, un sens plus passionnel qu'intellectuel, mais enfin c'est aussi une sorte de sens. Ce qui gêne terriblement l'esprit humain, c'est la notion que les signes n'expriment que ce qu'ils expriment. Qu'une croix, c'est une croix, un cercle, c'est un cercle, le signe égalité, c'est le signe égalité, signe multiplié par, c'est le signe multiplié par. Et qu'évidemment, on peut y rajouter après tout ce qu'on veut, mais que fondamentalement, il n'y a que ça. Qu'il n'y a que des mots, qu'il n'y a que des couleurs, qu'il n'y a que des sons, et que c'est après, dans notre tête, en quelque sorte, que tout cela se justifie. Bon, je vais essayer de quitter le ton un peu abstrait pour vous donner des exemples personnels de ce que je veux dire. Quand j'avais votre âge, à peu près, en 35-36, j'ai eu un ami, j'habitais Saint-Nazaire, au collège Briand de Saint-Nazaire. J'avais un ami plus âgé que moi, qui était un peu mon guide, mon mentor, qui était un journaliste d'Ouest-France, d'Ouest Éclair, à son âge, et qui s'était un peu institué mon guide. Il me donnait des livres à lire, parce que ni à l'école, ni même dans ma famille, je n'avais possibilité de lire grand chose. Bon, des œuvres classiques, des œuvres anciennes, mais enfin des œuvres modernes, contemporaines, non. Et cet ami Branleck m'avait donné donc plusieurs livres. Il m'a fait découvrir Mallarmé, il m'a fait découvrir Valéry, il m'avait donné L'Enfant terrible de Cocteau, c'est-à-dire des livres à l'époque qui étaient à peine, qui étaient vraiment contemporains. Et un jour, il m'a donné Le Capital de la douleur d'Éluard, quelques beaux livres d'Éluard. Et je suis devenu pratiquement fou furieux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on me donne à lire un livre? Pourquoi me donnes-tu à lire un livre? Ah, c'est fou, il est fou ce type. Parce que, simplement, ce n'était pas éduqué à comprendre l'art. C'est aussi bête que ça. J'en étais resté en matière poésie, si vous voulez, à Vérarène, à nouveau, à la Forgue. Et puis, je n'étais pas allé au-delà. Donc, j'avais déjà beaucoup de peine à comprendre, à m'ouvrir à Mallarmé, mais l'art, ce n'en était pas question. Alors, c'est ce qui se passe à peu près tout le temps. Quand vous vous trouvez devant une œuvre nouvelle, devant une peinture ou une musique nouvelle, la première réaction est de la refuser. On s'étonne souvent pourquoi les chefs-d'œuvre ou les œuvres d'importance ne sont jamais, presque jamais, reconnus dès leur naissance, dès leur apparition. Sont reconnus bien longtemps après. Si vous prenez à peu près les plus grands écrivains, je dirais, de la fin du siècle dernier, entre 1850-1900, deuxième moitié du siècle, ce que je crois être les plus grands, et maintenant on commence en effet à considérer que ce sont parmi les plus grands. Rimbaud, ça commence à Baudelaire, si vous voulez, Fleurs du Mal, puis Rimbaud, puis Mallarmé, puis des prosateurs qu'on ne lit pas encore suffisamment, d'ailleurs, comme Villiers de l'Isle-Adam, Barbé d'Orfili, Bourges, les premières œuvres de Gide, de Valéry, qui sont aussi de cette période, de Claudel. Eh bien, aucune de ces œuvres, mais aucune de ces œuvres, n'a été reconnue ou lue du vivant de l'autre, cette époque-là. La plupart de ces écrivains sont morts jeunes, se sont suicidés, ont fini dans des asiles de fous, par désespoir d'être rejetés. Ils ont survécu parce qu'ils avaient de la fortune personnelle et qu'ils avaient d'autres moyens, comme Claudel ou Gide, mais leurs œuvres étaient totalement inconnues. Les Nourritures terrestres, qui sont vraisemblablement le plus beau livre de Gide, 20 ans après, en 1920, à peu près, ou 1919, il en avait vendu 200 exemplaires, en 20 ans. Bon, on se dit, c'est incroyable, on se dit, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que des œuvres aussi parfaites que celles que je viens de vous citer reçoivent ce mépris, ce refus à leur parution. Mais c'est tout à fait normal, c'est la réaction que j'ai eue quand on m'a montré Éluard à 16 ans. Je n'étais pas prêt pour recevoir cette charge. Et donc, je ne l'ai pas reconnu. Alors, tout cela pour répondre, comme ça, par approche un peu donc aux questions que vous m'avez posées, et notamment les problèmes d'authenticité. Bon, je vous ferai bien volontiers des confessions, je vous dirai bien volontiers sur des points particuliers, si cela est vrai ou pas vrai, si cela m'est arrivé ou pas arrivé, si j'ai ressenti des événements que je décris comme je les décris dans des livres. Mais il faut bien comprendre au départ que ça n'a pas tellement d'importance, que l'importance n'est pas là. L'important, ce n'est pas d'être l'écrivain qui entreprend une histoire ou un récit ou un poème n'est pas comparable à l'enfant qui va écrire une lettre à sa mère et où évidemment il doit lui exprimer le plus précisément possible ses sentiments ou ses sensations. Et encore, quand vous vieillirez, très vite vous apercevrez que même à sa mère, il n'est pas toujours bon de dire la vérité parce que ça la fait souffrir, tout simplement. Et qu'il vaut mieux un peu dorer la pilule. Quand vous aurez des difficultés, vous n'irez pas à tout puissant et dire à vos parents que je suis malheureux, parce que vous savez que votre mère sera malheureuse. Alors vous me direz, mais tout va très bien, même quand vous êtes désespéré. Ça ne voudra pas dire que vous n'êtes pas authentique, ça veut dire que vous aurez une authenticité sentimental, affectif, qui n'est pas la même sincérité qu'une sincérité purement intellectuelle. Voilà, il y a une sincérité du cœur, comme il y a une sincérité de l'esprit, c'est pas la même.